Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Renaud, quelle émotion de me retrouver virtuellement en face de toi pour une nouvelle émission de l'économie pour tous, après bien des années, puisque je ne sais pas si tu t'en souviens, mais la dernière émission que nous ayons enregistrée pour ce programme, c'était en juin 2011.
Je m'en souviens parfaitement, Eric, et pour les nouveaux auditeurs, je rappelle que nous avons fait cette émission hebdomadaire durant une petite dizaine d'années quand même, hein, où toutes les semaines, pendant une dizaine d'années, à raison d'une trentaine d'émissions par an, nous décryptions l'actualité économique. Et nous avons arrêté en 2011 pour des raisons d'éloignement géographique. Et puis l'autre jour, en discutant, Eric, nous sommes dit tous les deux quand même que la crise actuelle méritait un petit éclairage, et donc spontanément, tous les deux, la même idée nous est venue,
ressusciter
notre émission. Voilà, ressusciter cette émission pour quelques émissions spéciales.
Voilà, alors on ne part pas sur un nombre précis d'émissions, mais on va se laisser, comme d'habitude, porter par l'inspiration. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Moi-même, j'essaierai d'apporter donc justement un angle un petit peu différent, qui est peut-être un petit peu complémentaire du tien.
Voilà. Et pour juste nos auditeurs qui ne nous connaîtraient pas, me concernant, je suis enseignant de sciences économiques et sociales au lycée et en classe préparatoire aux grandes écoles, BL pour ceux qui connaîtraient. Et te concernant, je te laisse te présenter, Eric.
Eh bien, écoute, je suis simple conseiller principal d'éducation dans un lycée de l'Oise. Je n'ai pas de compétences particulières en économie, si ce n'est celle que tu as bien voulu m'apporter toutes ces nombreuses années passées à tes côtés, Renaud. Donc, ça ne fait pas de moi un novice total non plus.
Je confirme que tu n'es absolument pas novice en la matière.
Bien, alors écoute Renaud, ce qui nous pousse à relancer cette émission, c'est la crise actuelle liée au Covid-19. Plus précisément, c'est le confinement qui nous a amené à une situation qui est assez inédite en France et dans le monde, je dois dire, qui est celle donc du grand enfermement, qui a une conséquence directe sur l'économie en termes de ralentissement, ce qui a entraîné bien sûr une rentabilité négative de l'ensemble des agents de production. Est-ce que je me trompe en disant ça ?
Pas du tout, Eric, et c'est justement ce qui fait une des originalités de cette crise, et en partie d'ailleurs ce qui explique l'intensité de la récession dont nous allons parler, c'est que si on compare aux autres très grandes crises, mais on aura l'occasion de le faire dans d'autres émissions, la quasi-totalité des crises jusqu'à présent ont eu des raisons économiques, des causes stricto sensu économiques. 1929, c'est un krach immobilier et un krach boursier, ainsi qu'un krach bancaire. 2008, tout le monde le sait, c'est avant tout le krach immobilier aux États-Unis, puis ensuite l'effondrement des bulles spéculatives sur les marchés financiers. Mais là, cette fois-ci, la cause n'est pas à trouver dans le système économique lui-même, mais c'est une cause extérieure, une crise sanitaire.
Et c'est pour ça qu'elle provoque autant d'interrogations, je dirais, parce que en fait, lorsque la crise vient d'une bulle spéculative, on sait quelles vont être les conséquences parce qu'on a l'expérience de ce type de choses. Est-ce que c'est très différent cette fois ?
Alors, c'est différent dans sa cause, mais ensuite, comme nous allons le voir ensemble, le mécanisme qui va générer la récession et qui éventuellement va permettre de sortir de cette récession, là après, ce sont des mécanismes extrêmement bien documentés et très classiques.
D'accord. Alors, la récession, si on veut la chiffrer un tout petit peu, en France, elle serait, d'après ce que j'ai pu lire ici ou là, pour le moment, environ de 8%. Et je dis bien pour le moment parce que c'est une précision extrêmement importante. On le verra peut-être un petit peu plus tard dans cette émission. L'endettement de la France, à l'heure actuelle, il est de 115% du PIB. Est-ce que ça correspond à ce que tu voyais, toi ?
Alors, c'est possible. Avant la crise, l'endettement public, c'est-à-dire la somme des emprunts qui ont été réalisés par les administrations publiques françaises, État, Sécurité sociale, collectivités territoriales, s'élevait à environ 100% du PIB. Je ne sais pas si tu sais à combien s'élève le PIB, d'ailleurs, Eric, un ordre de grandeur.
250 milliards d'euros.
Alors beaucoup plus, 2200 milliards d'euros. Donc ça veut dire que chaque année, la France, si je peux te rassurer, je pense que beaucoup d'auditeurs n'avaient pas le bon chiffre en tête non plus. Mais tout ça pour dire que tous les ans, les unités productives françaises produisent l'équivalent de 2200 euros de richesse, qui sont ensuite distribués sous forme de salaire, de dividendes pour les actionnaires, enfin de rémunération d'une manière générale. Et la dette publique, équivalait à peu près à 2200 milliards aussi, c'est-à-dire la somme des emprunts qui avaient été réalisés par les administrations publiques. Et là, effectivement, avec la crise, on postule, on suppose, parce qu'on n'a pas encore la certitude, ça sera peut-être beaucoup plus, hein, mais on postule qu'à la fin de cette crise, la dette publique française sera passée à 115% du PIB, effectivement.
D'accord. Alors, évidemment, il n'y a pas que la situation de la France, il y a la situation de l'ensemble des pays du monde, j'ai envie de dire. Alors, en Chine, par exemple, Renault, à combien s'élèverait la récession ?
Alors, d'après les dernières prévisions du FMI, on sera aux alentours de 6%. Et en fait, si on regarde bien les prévisions du FMI, au niveau mondial, ce qui est prévu, c'est une récession aux alentours de 3%. Et pour les grands pays industrialisés que l'on connaît, partout, c'est aux alentours de 7%, à peu près. Donc la Chine, 6%. Les États-Unis, j'ai pas le chiffre pour les États-Unis, mais l'Europe, d'une manière générale, c'est 7,5%. La France, 8%. Voilà, tu vois, l'ordre de grandeur est à peu près équivalent.
Et puis après, évidemment, il y a toutes les grandes puissances financières, mais aussi les pays émergents qui sont touchés également par cette crise du coronavirus. Toutes les économies mondiales, en fait, vont avoir à souffrir de la période que nous traversons, n'est-ce pas ?
Alors, dans une économie mondialisée, de toute façon, même un pays qui n'est pas touché par le coronavirus et qui ne subit pas de confinement, cette crise aura forcément un impact sur sa situation, puisque nécessairement, si les pays européens ou la Chine ou les États-Unis sont en récession, cela signifie qu'ils importeront moins, et donc ces pays qui eux-mêmes exportent vers ces autres pays seront forcément touchés d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit directe ou indirecte par cette crise. Tous les pays du monde vont être touchés.
Oui, donc en fait, c'est aussi une suite de conséquences en cascade, puisque des causes vont entraîner des conséquences qui eux-mêmes entraîneront des conséquences.
Exactement, c'est ce que nous verrons dans les différentes émissions, mais je voudrais quand même tout de suite, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, mettre en avant que ce sont des prévisions, tout cela. Sont des prévisions. Ça sera peut-être bien pire et ça sera peut-être un peu moins. Je vais expliquer pourquoi très rapidement. On sait actuellement en France que chaque semaine de production équivaut à peu près 60 milliards d'euros de production. Voilà. Donc à chaque fois que l'on stoppe l'activité économique sur une semaine, on perd 60 milliards d'euros, pour aller vite. Bon, donc effectivement, on peut anticiper la récession en se disant voilà, le confinement va durer 2 mois, donc on additionne toutes les semaines de production qui sont perdus et on obtient le montant global qui va être perdu en termes de richesse et donc ça nous donne quelque chose comme 8%. Mais qu'est-ce qui va se passer à la sortie du confinement ? Alors déjà, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir un deuxième confinement en juillet, en août, en septembre ou en octobre, auquel cas, bien évidemment, la récession sera beaucoup plus importante. Deuxième chose, que vont faire les consommateurs à la fin de la récession ? Est-ce qu'ils vont consommer comme ils le faisaient avant ? Auquel cas, on va sans doute rattraper assez rapidement cette perte de production, parce que finalement, si on a moins produit, c'est aussi parce que les agents économiques ont moins consommé, mais peut-être qu'ils ne font que reporter leur consommation en attendant tous la fin du confinement pour d'un seul coup dépenser ce qu'ils n'ont pas dépensé en avril, auquel cas la récession sera moins importante que prévu. Par contre, si les agents économiques français se disent on a pris des nouvelles habitudes, on a appris à faire notre pain, et puis il vaut mieux, en face de cette récession, pas tout dépenser d'un coup et garder de l'argent de côté, la consommation va diminuer et la récession sera bien, bien pire que 8%.
Et bien évidemment, l'ampleur de cette récession va dépendre de la durée de confinement total au bout de la crise qui aura été cumulée.
Alors en fait, ça va dépendre de 3 choses. La durée de confinement, évidemment. Ça va dépendre de l'évolution des comportements des consommateurs, que pour l'instant, il est extrêmement difficile d'anticiper. Alors, est-ce qu'un nouveau consommateur, est-ce qu'un nouveau citoyen va apparaître, ou est-ce qu'on va devenir comme avant ? Donc c'est très difficile à dire. Et puis troisièmement, évidemment, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, cela dépendra très fortement des politiques économiques qui vont être menées.
Pour le moment, Renaud, les politiques économiques qui sont menées consistent à réinjecter de l'argent dans le système, c'est-à-dire refinancer les entreprises qui sont en train de perdre ce flot d'argent absolument énorme. J'ai quelques chiffres aussi par rapport à ça. Le plan de financement en France, il est de 110 milliards d'euros, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Et aux États-Unis, il est de 394 milliards de dollars injectés dans l'économie par la Fed.
Oui. Et de la part de l'État américain, on parle même potentiellement d'une injection de 1 000 milliards de dollars. Mais c'est une potentialité. Potentialité au sens où l'État américain, comme l'État français, s'est par exemple engagé pour garantir des prêts d'entreprise. En disant à des banques, ben là pour l'instant, vous ne leur demandez pas de rembourser le prêt, puisqu'on garantit. Mais si la banque fait faillite, il faudra bien que l'État derrière finance les banques. Et donc, en ce sens-là, si dans le pire des cas, ça ferait 1 000 milliards de dollars pour les États-Unis.
D'accord.
Juste, je voudrais, parce que je me suis amusé, j'ai fait le calcul et je pense qu'il est très parlant le calcul pour rendre tout ça concret. Parce que finalement, quand on nous dit qu'on a une récession de 8% en France, alors imaginons que ce soit 8%, j'ai expliqué que ça ne ce n'est qu'une prévision, mais qu'est-ce que ça veut dire 8%? Donc je me suis amusé à faire un petit calcul. Le PIB français, il est équivalent à 2 200 milliards d'euros. Donc si le PIB français baisse de 8%, cela veut dire qu'il va baisser d'environ 175 milliards d'euros. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, on aura produit 175 milliards d'euros de moins. Donc cela signifie qu'on aura distribué aux agents économiques sous forme de rémunérations diverses 175 milliards d'euros en moins. Si on divise ça par 60 millions de Français, ça fait à peu près 3 000 euros en moins par Français. Donc pour un couple avec deux enfants, ça fait quand même 12 000 euros en moins sur l'année. Alors évidemment, c'est une moyenne. Après, comment va être répartie cette récession? Qui va subir réellement la baisse des rémunérations? Ça, c'est une autre question dont on reparlera. Mais en moyenne, voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur. C'est quand même très très loin d'être négligeable.
Alors, j'imagine que dans une prochaine émission, on envisagera les conséquences de tout ce que tu viens de dire en termes de peut-être de krach boursier, ouais. de chômage, de peut-être de réajustement des comptes des banques aussi, parce qu'il va falloir aussi passer par. Mais pour conclure cette première émission, Renaud, moi, je voulais te faire un petit aparté et te poser une question à brûle pour point. Est-ce qu'à ton avis, cette crise liée à une épidémie est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 1919, ou est-ce que, selon toi, il y a eu d'autres précédents plus récents?
Alors, il y a eu, je sais qu'il y a eu le SRAS, Ebola, mais au final, les répercussions sur l'économie mondiale ont été très très faibles, mais mis à part ça, je ne connais pas d'autres situations sanitaires qui auraient engendré depuis la grippe espagnole de 19 une situation équivalente. Donc Eric, peut-être as-tu des choses à m'apprendre dessus.
Oui Renaud, je voulais te parler d'un phénomène qui s'était produit en 1968, 69 et 70 qui s'appelait la grippe de Hong Kong. Est-ce que tes parents ou tes grands-parents t'ont jamais parlé de cette grippe de Hong Kong?
Non, en tout cas, je n'en ai pas souvenir.
Alors toi, tu n'étais pas né, moi j'étais né, mais j'étais très jeune. Mais effectivement, mes parents non plus ne m'ont jamais parlé de cette grippe de Hong Kong. C'est une souche qui vient de la souche initiale qui était celle de la grippe espagnole, qui est apparue en Asie centrale, donc précisément à Hong Kong, dans la colonie britannique, hein, puisqu'à l'époque, Hong Kong était britannique. Elle est apparue en août 68. Elle s'est développée assez rapidement à cause des marines américains qui l'ont importée aux États-Unis. Et au début de l'hiver 1969, elle commence à toucher la France. Et je te propose d'écouter un petit témoignage audio, puisque un médecin de l'Institut Pasteur a été interrogé par la télévision française ce jour-là. Et je te propose d'écouter son interview que voici.
Mais la grippe de Hong Kong menace-t-elle la France? Le docteur Cataigne va nous répondre.
En France, il n'y a pas d'épidémie pratiquement en ce moment. Ni en Europe non plus. Il y a eu quelques cas qui ont été décelé en Angleterre et aux Pays-Bas, je crois. Enfin, il n'y a pas de véritable épidémie en France.
Mais est-ce que cette épidémie à virus de Hong Kong pourrait venir en Europe?
Bien sûr, elle peut venir en Europe. Puisqu'elle est déjà aux États-Unis, il n'y a pas de raison qu'elle ne parvienne pas en Europe. Mais enfin, je pense qu'elle n'évoluera pas comme la pandémie de 1957, c'est-à-dire qu'elle n'évoluera pas, qu'elle ne touchera pas le monde entier à la vitesse à laquelle toute notre planète a été touchée en 1957. Donc il n'y a pas lieu de s'affoler, parce que cette épidémie évoluera probablement comme une épidémie saisonnière assez banale.
Bon voilà Renaud, bah, écoute, comme tu peux le voir, le discours de ce médecin est plutôt rassurant. Hein, elle parle d'une épidémie saisonnière banale. Sais-tu combien la grippe de Hong Kong a fait de victimes en France pour commencer cette année-là?
Aucune idée, Eric.
Eh bien Renaud, la grippe de Hong Kong a fait cette année-là en France 31 000 victimes.
D'accord.
Et au niveau mondial, 1 million de personnes.
D'accord.
Alors, comment expliquer la différence qui existe entre la période que nous connaissons actuellement et cette fameuse grippe de Hong Kong qui a été totalement sous-estimée par les médias à l'époque, hein. Je rappelle qu'on est en 68-69, donc évidemment, il y avait d'autres sujets d'actualité. Il y avait notamment mai 68 qui venait de se terminer. Il y avait la succession du général de Gaulle qui s'annonçait. Il y avait la guerre du Biafra qui suscitait l'intérêt des médias à cause de l'épidémie et de la famine qui en découlait. Donc finalement, l'optimisme de ces 30 glorieuses était à l'œuvre et on ne soupçonnait pas du tout l'ampleur de cette pandémie. Et on voyait des gens disparaître en grand nombre, mais il s'agissait principalement de personnes âgées. Et comme à l'époque, l'espérance de vie ne dépassait pas 65 ans, eh bien finalement, on considérait relativement normal que les personnes âgées disparaissent à cause de la grippe. Et pourtant, le solde de tout compte de cette grippe a été infiniment plus important que ce que nous connaissons aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc ça explique aussi peut-être que les politiques publiques n'ont pas été les mêmes. Donc là, les autorités en France n'ont absolument pas réagi par rapport à cette question. Il n'y a pas, absolument pas été question de confinement, ni de mesures même de vaccination massive, puisque ce n'était pas du tout dans les politiques publiques de l'époque. Et donc voilà comment on peut passer à côté d'une pandémie absolument gigantesque, sans que ça laisse de traces dans les esprits, et sans que ça ait finalement de très graves conséquences sur l'économie non plus. C'est très surprenant, n'est-ce pas ?
Ah ouais, merde, mais je ne le connaissais pas du tout, donc je vais aller me documenter aussi. Merci beaucoup de m'apprendre ça. Alors, je tiens juste à signaler que le nombre de morts à l'époque était plus important qu'aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a confiné. Si on n'avait pas confiné, peut-être qu'en fait, on aurait aujourd'hui un solde de morts infiniment plus important que ce que l'on a. Donc, pour comparer, tu vois, les deux situations, peut-être aussi que si les conséquences ne sont pas aussi dramatiques qu'à l'époque, c'est grâce aux mesures qui ont été prises. Mais après, absolument. Moi, je ne suis pas médecin, donc...
Tout à fait. Bien évidemment, on est à une toute autre époque aujourd'hui, tant sur le plan de l'avancée scientifique que sur la façon de considérer les choses par les pouvoirs publics. Bien, Renaud, merci beaucoup pour cette toute première émission de la saison 8 de l'économie pour tous.
J'aurais préféré qu'on se retrouve pour une d'actualité un peu moins dramatique, mais c'est un grand plaisir de te retrouver, de retrouver tous nos auditeurs, Eric.
Et pour moi aussi.
À la semaine prochaine, où nous parlerons du chômage et nous parlerons des mécanismes économiques qui passent de la crise sanitaire à la crise économique.
Très bien. Merci, Renaud. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.